Avoir raison avec Noam Chomsky. Cinquième épisode, Chomsky et la liberté d'expression.
En ce qui concerne ma défense des personnes qui expriment des opinions absolument outrancières, je n'ai pas une seule seconde que la police de la pensée prétende que je les défends. Ce n'est pas le cas. Je défends leur droit de les exprimer, et la différence est cruciale. Et à part les fascistes, tout le monde l'a compris depuis le XVIIIe siècle.
Dans les débats passionnés qui opposent partisans ou détracteurs de Noam Chomsky, tout est souvent affaire de préface. La préface qu'aurait accordée Chomsky à un livre de Robert Faurisson, dont on sait aujourd'hui qu'il s'agissait en fait d'une lettre récupérée et utilisée par l'éditeur du négationniste sans l'accord de son expéditeur. Autre préface, celle de Noam Chomsky au livre « Génocide et propagande » paru en 2010, écrit par Edward Edman et qui accumule les contre-vérités, en particulier sur le génocide des Tutsis au Rwanda. 2010, c'est aussi l'année où paraît « Raison et liberté », un ouvrage de Chomsky cette fois, et dont la préface, Chomsky face à ses calomniateurs, est signée par le philosophe Jacques Bouvresse. Dans la période récente, écrit-il alors, peu d'intellectuels ont été diffamés, intellectuellement ou moralement, au degré où lui continue à l'être. En France, ceux qui lui étaient fidèles dans les années 70 et 80, les admirateurs du linguiste qu'il était, ont pour certains regretté que son œuvre scientifique soit éclipsée par ses textes ou ses films militants. D'autres, au contraire, ont salué l'espace critique qu'il permettait d'ouvrir dès lors que les éditeurs voulurent bien le faire traduire. Alors on avait promis au début de cette série de ne jamais faire dire à Noam Chomsky ce qu'il n'a jamais dit, mais l'objet de ce dernier épisode est de voir comment il est lu aujourd'hui, comment il est interprété, parfois récupéré, et d'en débattre avec donc deux invités. Bonjour Rudi Reichstadt. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le directeur de Conspiracy Watch, l'observatoire du conspirationnisme, auteur de L'Opium des imbéciles, un essai sur la question complotiste paru chez Grasset. Et vous êtes donc ici en débat avec Denis Robert. Bonjour.
Bonjour.
Je vous êtes journaliste et écrivain, le fondateur du nouveau site de presse en ligne Blast. Et vous avez publié aux éditions des Arènes, c'était en 2001, un livre d'entretien avec Noam Chomsky, 2 heures de lucidité, ça s'appelait, c'était aux éditions donc des Arènes. Est-ce qu'en 2001, juste avant le 11 septembre donc, est-ce qu'il vous a été facile de convaincre Noam Chomsky de vous accorder un entretien, à vous journaliste français, et de convaincre un éditeur de publier cet entretien ?
Ça a été une affaire compliquée, pas tellement pour l'éditeur, parce que l'éditeur c'était un ami, mais avant de l'éditer aux Arènes, j'avais fait la tournée quand même de plusieurs maisons d'édition et je n'avais essuyé que des refus. Et la raison pour laquelle j'avais envie de faire ce livre avec Noam Chomsky était liée à mon enthousiasme et à la découverte quelques années précédemment du documentaire sur lui fait par les deux Canadiens sur les médias et les illusions nécessaires. La vision de ce documentaire avait un peu changé ma vie et m'avait donné un autre regard un peu sur le journalisme. Et je pense que Chomsky a été convaincu d'abord par la lettre que je lui avais envoyée et puis par mon enthousiasme. Et ce que je dois préciser.
Ah, Denis Robert, on vous a perdu. Donc vous allez nous raconter dans quelques instants comment vous l'avez donc contacté, parce que Noam Chomsky est quelqu'un qui se donne entre guillemets assez volontiers, qui partage assez facilement, et c'est donc les Arènes qui ont accepté de publier ce livre d'entretien. Oui, alors allez-y, on vous a retrouvé.
On vous a perdu,
mais on vous a retrouvé, dites-nous.
Ah bon ? D'accord, pardon, alors je sais pas, je pensais être...
Alors dites-nous, alors vous l'avez donc contacté.
Oui, je lui ai écrit une lettre pour lui dire à quel point la vision de son documentaire, enfin du documentaire qui avait été fait sur lui par les deux journalistes canadiens m'avait changé mon parcours. Et je le connaissais aussi parce que j'avais fait des études de psycho et je connaissais le linguiste avant de connaître l'homme politique, on va dire, ou le philosophe. Et c'est il a réagi assez vite à ma lettre. Mais lui, ça l'emmerdait vraiment enfin, il avait un rapport avec les Français, les journalistes français assez négatif, quoi, puisqu'il était, il avait été clairement diffamé, traîné dans la boue, etc., à cause de la polémique Forisson que vous avez relevé tout à l'heure. Et donc, quand il a compris que j'étais pas du tout sur cette ligne-là, les choses se sont passées assez bien entre lui et moi. Ce qui a été plus compliqué pour moi, c'est de trouver un éditeur. Et donc j'en avais vu plusieurs avant de finalement de demander à Laurent Beccaria aux Arènes qui était mon ami de l'éditer puisque d'autres maisons d'édition ne voulaient pas c'était l'époque 99-2000 où Chomsky était encore traîné dans la boue partout dès qu'on prononçait son nom on avait l'étiquette antisémite ou révisionniste etc puisqu'il y avait plein d'amalgames qui étaient faits y compris par des intellectuels français hein, de médiatique on va dire et j'ai dû un peu me bagarrer contre ça et c'est pour ça que j'ai eu très envie de faire ce livre, c'est pour ça que ce livre a été ensuite traduit parce que et il a eu beaucoup de succès en France parce que c'était le premier d'une longue liste après où Chomsky va avoir table ouverte d'ailleurs chez ces mêmes éditeurs qu'il traitait d'antisémite quelques années auparavant.
Alors voilà, pour les citer quand même, Chomsky a été publié d'abord par de petites maisons indépendantes, à Gone, le serpent à plumes, à Crassi, et puis Fayard publiera en 2002 un livre d'entretien de son côté par un journaliste américain. Vous dites, Denis Robert, qu'il a compris assez vite, Chomsky, que vous n'étiez pas sur cette ligne-là concernant l'affaire Forisson, mais en tout cas, vous le travaillez là-dessus, vous écrivez que là-dessus, alors on va quand même se tourner vers Rudi Reichstadt, vous écrivez, Denis Robert, qu'il a manqué de discernement, vous le travaillez là-dessus, lui il est très agacé, donc je voudrais d'abord entendre Rudi Reichstadt sur la manière dont à l'époque vous avez entendu cette justification que disait Chomsky, Rudi Reichstadt sur, attendez c'est pas moi, je n'ai pas écrit la préface du livre de Robert Forisson, j'avais écrit une lettre et à l'époque je l'avais envoyée à mon ami le chercheur Serge Thion qui sans me prévenir a fait paraître avec la complicité de l'éditeur Pierre Guillaume ce texte en préface de l'ouvrage de Forisson, Mémoire en défense contre ceux qui m'accusent de falsifier l'histoire. C'était le titre de l'ouvrage.
Ça c'est la version de Chomsky et de ceux qui veulent bien y croire. Le problème, c'est que Pierre Vidal-Naquet, qui a été dans une controverse avec Chomsky sur ces sujets-là, n'a pas tout à fait la même version. Lui nous dit qu'il a un de ses collègues qui a correspondu avec Chomsky à l'époque, avant la publication de Mémoire en défense, donc du livre de Forisson, auquel a été ajouté effectivement un avis, parce que c'est écrit sur la couverture du livre de Forisson, hein, précédé d'un avis de Noam Chomsky, le nom de Noam Chomsky étant écrit en lettres capitales, donc c'est très important.
C'est un choix de l'éditeur.
Absolument, non, mais ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que pour l'éditeur, c'est une prise de guerre, Chomsky. C'est très important d'avoir Chomsky dans la croisade négationniste et de l'enrôler avec, même si effectivement, Chomsky, dans ce texte, ne dit pas du tout, il dit qu'il ne connaît pas les thèses de Forisson, qu'il ne les a pas lues, que ce n'est pas son sujet c'est uniquement la liberté d'expression. Bon. Mais si on en croit Pierre Vidal-Naquet, il a un collègue qui a correspondu avec Chomsky pendant des mois, avant la publication. Et ce qui est sûr, c'est que Chomsky, effectivement, quelques jours avant, demande à l'éditeur de ne pas publier ce texte-là dans le livre de Forisson et que l'éditeur lui fait cette réponse. En gros, c'est trop tard, c'est déjà imprimé. Mais la controverse porte moins là-dessus que sur la pétition signée un an auparavant, en 1979. Il faut rappeler à nos auditeurs qu'en 1978, Forisson fait passer un texte, quand même une tribune dans Le Monde. C'est le début de ce qu'on a appelé l'affaire Forisson. Forisson, ce n'est pas un historien, hein, c'est un maître de conférences en littérature, à Lyon 2. Et c'est quelqu'un qui fait des tracts dès l'année 78, disant qu'aucun juif n'est mort dans les chambres à gaz, que Hitler n'a tué aucun juif, que les chambres à gaz sont un mythe, une invention.
Il dit parce que ça ne peut pas avoir existé, parce que ça n'est pas possible qu'une telle chose ait existé.
Voilà,
c'est ce qu'il dit. Et puis Pierre Vidal-Naquet,
voilà,
s'est beaucoup moqué de lui.
Il initie ce qu'on appelle le négationnisme technique, avec l'argument technique. Mais donc, 79, il y a un texte qui soutient Forisson, une pétition, et cette pétition présente Forisson comme quelqu'un qui a entrepris, je cite, une recherche historique, indépendante et approfondie sur la question de l'Holocauste. Fermez les guillemets. Et c'est ça qui est quand même beaucoup reproché à Chomsky, c'est d'avoir apposé sa signature à un texte qui contient ce type d'éléments.
Denis Robert, il vous en parle de cette pétition, Chomsky, à l'époque ?
Et Chomsky m'en parle, Vidal-Naquet aussi, puisque pour le livre, j'ai eu Vidal-Naquet au téléphone, j'avais écrit une lettre aussi, lettre que j'ai retrouvée en préparant votre émission. Et si vous voulez, il y a la colère, en tout cas entre les deux hommes, et l'animosité était intacte. C'est-à-dire que j'ai le souvenir d'une conversation Vidal-Naquet. Je lui avais dit, écoutez, je publie intégralement, vous pourrez le vérifier, votre réponse à Chomsky dans ma préface. Et Vidal-Naquet m'a reproché de publier le livre. Il a dit, il faut pas donner la parole à ce sale type, quoi. Il était sur une ligne très très dure à l'égard de Chomsky, et Chomsky était vraiment blessé par ça, parce que moi qui l'ai donc rencontré, avec qui j'ai eu ces longues conversations, je pense qu'il était vraiment de bonne foi, c'est-à-dire il a manqué de discernement. Comme il est assez psychorigide, il a du mal à le reconnaître, mais en fait il s'est fait avoir par Sertion et puis par toute la clique de négationnistes. Lui, Forisson, il savait pas qui c'était. Faut voir aussi ce qu'est la vie de Chomsky, quoi. Il est sollicité partout. Enfin, tout le monde fait appel à lui et donc
il signe des pétitions tous les jours pour la liberté d'expression.
Ouais, voilà ce qu'il dit. Comme son truc à lui, c'est ça. C'est-à-dire, il a des phrases comme il faut pas utiliser les mêmes méthodes que nos bourreaux. C'est un partisan de la liberté totale. Enfin, de la liberté totale. Après, on peut faire des procès en diffamation. On peut faire ce qu'on veut, mais je veux dire, la liberté d'expression, c'est très important pour lui, et il comprenait pas qu'en France on soit aussi on pratique autant cet obscurantisme et ne pas entendre ce message qui était pourtant simple. Chomsky n'est ni antisémite ni négationniste. Et d'ailleurs, c'est absolument douloureux pour lui, le juif, de devoir chaque fois, ou en tout cas assez souvent, dire voilà, l'Holocauste est le plus grand crime de toute l'humanité, enfin, etc. Et chaque fois, il y avait une bande de pour moi, je les trouve. Enfin, c'était assez facile. Ces pseudo-intellectuels, leur fond de commerce, c'était cette bataille sur l'antisémitisme, etc. Et ils n'ont pas varié là-dessus. J'ai des souvenirs de chroniques, d'ailleurs, quand mon livre était sorti, Bernard-Henri Lévy s'est fendu d'un texte où il reprenait les propos de Chomsky comme s'ils avaient été tenus en 2001 ou 2002, alors que c'était des propos très anciens. Enfin, il y a eu tout un tas de procès comme ça qui étaient vraiment, à mon avis, viciés, quoi.
Alors,
c'est très important de faire le livre.
Oui, Noam Chomsky, dont Ambrivol nous a dit d'ailleurs dans le premier épisode de cette série qu'il avait fait un long voyage en Israël en 1953, qu'il pensait avoir à s'y installer un jour, ce rêve sioniste l'intéressait beaucoup dans son côté collectiviste et de gauche. Il disait, c'est le reproche qu'on lui a fait à Chomsky, il disait, quand on lui disait, mais vous n'avez pas lu Forisson, mais enfin vous auriez pu vous renseigner, il disait tout autant que je puisse en juger, Forisson, c'est une sorte de libéral relativement apolitique. Alors, Rudi Reichstadt, est-ce qu'on peut dire de Chomsky qu'il a manqué de discernement ?
Mais c'est, en fait, je crois que c'est pire que ça, parce que son manque de discernement, il continue jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque vous l'interrogez, Denis Robert, votre livre est publié en 99, je crois, c'est ça ?
2001
Ou 2001, 2001.
Oui. Mais l'interview...
Oui.
L'interview d'été de 99 hein.
Bon, alors allez-y, continuez, Rudi Reichstadt.
Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui continue à dire « Ah, mais je ne sais toujours pas qui sont ces gens-là. » Et d'ailleurs, il dit, je ne sais plus dans cette interview ou dans d'autres, les gens de l'IHR, c'est-à-dire l'Institute for Historical Review, c'est-à-dire la plus grosse organisation négationniste américaine, créée à la fin des années 70, je ne sais pas qui sont ces gens-là. Alors que ces gens-là se réclament de Chomsky. Ils publient des textes de Chomsky dans leur revue. Et surtout, Chomsky fait un bouquin assez confidentiel en 1984. Donc 4 ans après le mémoire en défense, l'histoire de la fameuse préface, entre guillemets. En 84, il publie ce livre qui est préfacé par qui ? Par Pierre Guillaume. Pierre Guillaume, c'est-à-dire le propriétaire de la vieille taupe, l'éditeur de Forisson et de Serge Thion. Et il va entretenir, Chomsky, une correspondance avec Thion pendant de nombreuses années après, le coming out antisémite de Thion. En 93, on a eu un échange de lettres, où il parle d'ailleurs de Pierre Vidal-Naquet, où Chomsky écrit à Thion « Mon cher Serge ». Quoi. Donc, c'est quand même pas des éléments qu'on peut balayer d'un revers de la main en disant « Non, tout ça sont des mauvais procès ». Moi, je cherche pas à sonder les cœurs et les reins. Je sais pas ce que Chomsky a dans la tête. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Je pense pas du tout qu'il soit antisémite. C'est pas le sujet. Et je pense même pas du tout non plus qu'il soit négationniste. Mais il y a une compromission avec la sphère négationniste qui me effectivement me semble compréhensible que si on comprend qu'au fond derrière cela il y a quelque chose de très dogmatique chez Chomsky, parce qu'encore une fois son débat, sa controverse avec Pierre Vidal-Naquet, porte pas sur la liberté d'expression. Vidal-Naquet est d'accord sur l'essentiel. Vidal-Naquet est contre par exemple la loi Guesso qui sera votée en 90.
La loi Guesso qui pénalise
la contestation de crimes contre l'humanité jugés à Nuremberg. Voilà.
Oui, Denis Robert.
Non, mais je suis en gros, enfin, je suis pas d'accord sur le fait que, enfin, je ne savais pas que des années plus tard, il avait continué à entretenir cette relation. Mais Chomsky était, je veux dire, pour lui, Thion, c'était pas Forisson, c'était quelqu'un avec qui, sans doute, d'une manière privée. Et il avait entretenu, il voulait, c'est quelqu'un qui veut tout le temps comprendre. Il veut comprendre aussi pourquoi on est négationniste. Il veut comprendre, voilà, il est au plus proche de l'homme, quoi. Donc après, qu'on l'utilise, tout le monde passe son temps à l'utiliser, donc.
Mais alors, comment expliquez-vous, Denis Robert, là, c'est une vraie question, hein, qu'il veut comprendre, mais 40 ans après, 30 ans après cette histoire, il ne fait toujours pas l'effort d'essayer de savoir qui est Forisson. Il n'émet pas de regret sur le fait de l'avoir présenté comme un libéral relativement apolitique, ce que n'est pas Forisson lorsqu'on se penche simplement sur son parcours. C'est-à-dire, Forisson, c'est quelqu'un qui, depuis le départ, est un militant d'extrême droite. C'est quelqu'un qui est à l'association des amis de Robert Brasillach.
Denis Robert l'a dit, il est rigide et il ne veut pas revenir sur ses erreurs. C'est ça, vous l'analysez Denis Robert, c'est quelqu'un...
Ouais, c'est ça. Il est Noam Chomsky. Malgré toute l'affection que j'ai pour lui, j'ai passé du temps avec lui. C'était vraiment très agréable. Il est psychorigide sur des tas de questions. Et il veut pas en démordre, quoi. Mais il a, si vous voulez, lui, ce dont il a souffert, c'est le procès en antisémitisme. C'était un procès qui lui a été fait pendant des années en France, alors qu'il était plutôt lecteur de philosophes français, etc. Il aimait ce pays, et ce pays lui a craché à la gueule, quoi. Au même moment, Chomsky allait en Israël, il était accueilli par des tas de journaux, des émissions, etc. Et en France, il était complètement tricard, quoi. Donc voilà. Après, je crois que c'est une question de caractère aussi et de temps, quoi, parce que Chomsky n'avait pas. Il est aussi complètement. Moi, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à lui faire parler de ça parce qu'il en avait marre d'en parler, quoi, puisque tous les propos qu'il tenait étaient complètement surinterprétés.
Un dernier mot sur l'affaire Forisson, peut-être, directeur.
Non, sur l'affaire Forisson, c'est encore une fois cette compromission avec les négationnistes français, mais également américains. Il entretient aussi, au même moment, dans les années 80, une correspondance avec un dénommé Louis Rollins. Il va lui envoyer son livre, d'ailleurs, sur le Proche-Orient, qui s'appelle Le Triangle Fatidique. Ils vont en discuter. Louis Rollins va faire la recension de ce livre. Encore une fois, on est dans les années 80, dans la revue de l'IHR, etc. Mais moi, je ne crois pas qu'il y ait qu'un motif psychologique, une rigidité de Chomsky. Je pense qu'il y a un motif idéologique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de commun dans la littérature d'intervention politique de Chomsky et dans la littérature négationniste. C'est l'idée que il n'y a pas de différence de nature entre, par exemple, le bombardement de Dresde et la Shoah. Il n'y a pas de différence de nature entre ce que font des démocraties, les bombardements, vous voyez ce que je veux dire, et des massacres qui relèvent de crimes contre l'humanité. Voilà. Tout ça est mis sur le même plan, et j'y vois là une clé, à mon avis, de compréhension de ce compagnonnage.
Non, il met pas tout sur le... Pardon, Rudy, mais il met vraiment pas tout sur le même plan, c'est-à-dire que l'Holocauste, pour lui, il l'a... Voilà, c'est encore une fois, vous lui faites un faux procès, quoi. Je pense que il y a un côté aussi de provocateur chez Chomsky, quoi. En gros, en continuant à discuter avec ces gens-là, il pousse tout au bout le processus de liberté d'expression. Et c'était quelqu'un, pour lui, le meilleur moyen de lutter contre l'antisémitisme et le révisionnisme, c'était de donner la parole à ces gens-là et d'aller au bout, d'essayer de fouiller, chose qu'on ne peut plus faire avec la loi Guesso. Et d'ailleurs, quand on voit le résultat, je fais une toute petite parenthèse là-dessus, on voit à quel point le révisionnisme et les négationnistes sont encore sur Internet. C'est une folie, vous êtes bien placés pour le savoir. Oui. Et une des responsabilités, c'est cette fameuse loi d'interdiction qui est la loi Guesso. Et Chomsky a raison là-dessus aussi.
Alors la loi Guesso qui pénalise l'interdiction, le fait de s'exprimer, de contester le génocide. Alors tout ça est très compliqué parce que parmi par exemple tous les messages que j'ai reçus quand les auditeurs ont appris qu'on faisait consacrait une série à Noam Chomsky, beaucoup de messages se référaient à Vidal-Naquet en disant dans ce débat écoutez, lisez ce qu'a écrit Vidal-Naquet sur l'affaire Faurisson. Or beaucoup ignoraient que Vidal-Naquet aussi était contre, comme vous nous le rappelez, Rudi Rastatt était contre la loi Guesso en disant si l'État commence à définir ce qui est juste ou pas dans les propos, on s'en sort pas. Alors pour avancer peut-être un petit peu, on peut pas en tout cas reprocher à Noam Chomsky de ne pas être œcuménique, on va dire, dans sa défense de la liberté d'expression, puisque l'été dernier, il a signé avec une vingtaine d'écrivains, dont beaucoup de très libéraux qu'il a beaucoup contesté dans le passé, Fukuyama entre autres, une tribune qui s'appelait Notre résistance à Donald Trump ne doit pas conduire au dogmatisme ou à la coercition. Donc contre la cancel culture, en fait.
Contre la cancel culture, effectivement, comme il a signé aussi des pétitions pour soutenir des gens qui étaient, notamment en Grande-Bretagne, un universitaire ou un député travailliste qui était accusé, et à mon sens, mais on peut avoir un débat là-dessus pour de bonnes raisons, de tenir des discours ou des thèses antisémites.
Alors parfois on a dit que Chomsky avait signé des pétitions, ce qui n'était pas vrai, notamment dans l'affaire Vincent Renoir, l'historien négationniste en 2010. Il n'a pas signé Chomsky la pétition. Il a refusé de la signer, sans doute échaudé par l'affaire Faurisson, mais il s'est exprimé sur la loi Guesso.
C'est ça, il s'est exprimé sur la loi Guesso en disant qu'il estimait que c'était absolument anormal de mettre quelqu'un en prison, etc., pour des idées. Bon, là aussi, il peut y avoir débat là-dessus. Moi, je ne suis pas, si vous voulez, Simone Veil était aussi contre la loi Guesso. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passerait si on l'abrogeait ? Voilà.
Donc, c'est la lecture de Chomsky. Ce sont les lecteurs de Chomsky qui l'interprètent. À votre avis, le danger est là, Rudi Reichstadt, non pas tant dans les propos de Noam Chomsky, dont tout le monde a bien compris qu'il n'était pas antisémite, mais dans la lecture que font ceux qui le lisent.
Mais écoutez, ils y trouvent en tout cas un allié. Permettant de dire, vous voyez, le problème, c'est qu'il y aurait une sorte de police de la pensée en France et dans d'autres pays qui ont des législations comparables, comme en Allemagne, par exemple, qui ferait que l'État dit l'histoire. Voilà, c'est le grand argument, que ce soit de Chomsky, de Bricmont et des autres, de dire, c'est intolérable que l'État dise l'histoire, ça confine à l'Union soviétique et au stalinisme. Bon. Sauf que, qu'est-ce qui se passe dans les pays où il n'y a pas de législation antinégationniste? Il y a aussi des procès. On pense à, en Grande-Bretagne, il n'y a pas de législation contre le négationnisme, mais on a un historien négationniste, David Irving, qui a fait un procès à une historienne de la Shoah, qui s'appelle Deborah Lipstadt, une américaine. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment du procès? Ils ont dû établir la réalité de l'extermination des Juifs d'Europe. Et donc, c'est à la fin une vérité judiciaire qui en sort.
Rudi Reichstadt, sur le complotisme, vous dirigez l'Observatoire du complotisme. Est-ce que vous l'avez jamais pris en flagrant délit de complotisme, et notamment à compter du 11 septembre, qui est 2001, qui est la date à partir de laquelle toutes les théories du complot vont commencer à émerger, circuler massivement? Et c'est le début de cette histoire-là.
Selon cet an 2001, Chomsky, très rapidement, dit, en gros, l'Amérique n'est pas détestée pour ce qu'elle est, en fait, elle est visée pour ce qu'elle fait. Voilà, c'est donc, en gros, on paye là des années de politique interventionniste américaine dans le monde, on paye notre impérialisme. Bon. Et puis, dans les années qui suivent, interrogé sur les théories du complot, il nous dit que c'est le terme « conspiracy theory », c'est l'équivalent d'un mot en quatre lettres, crap, c'est-à-dire
faut pas y prêter attention.
Voilà, faut pas y prêter attention, et que ça ne sert qu'à diffamer les gens qui veulent penser librement. Puis quelques années après encore, en 2008, dans un livre d'entretien, il est interrogé là-dessus et il parle du mouvement pour la vérité sur le 11 septembre. En fait, les gens qui défendent les théories du complot sur les attentats du 11 septembre, et il dit que ces gens-là sont des fanatiques, il y a un fanatisme religieux chez eux et que on peut pas raisonnablement remettre en cause ce qui s'est passé le 11 septembre. Donc là, je crois qu'il faut le dire, il y a une ambivalence chez Chomsky là-dessus, parce qu'il retient par la manche vraiment des gens qui pourraient basculer dans le conspirationnisme du 11 septembre.
Et vous, Denis Robert, vous l'interrogez sur le complotisme, vous lui demandez ce qu'il en pense, ce qu'il en croit, et lui il vous dit non, il n'y a rien au sommet de la pyramide, le monde n'est pas un système totalitaire, il contient des poches de totalitarisme, mais le système est beaucoup plus diffus.
Oui, c'est ça, quoi. Lui est beaucoup plus sur les questions de propagande. Il dit aussi la propagande est à la démocratie, ce que la matraque est à la dictature. Il dit aussi plus un groupe est puissant, plus il met en avant des politiques qui servent ses intérêts. Par exemple, cette phrase-là, qui pour moi est assez marquante, on peut l'interpréter comme une phrase conspirationniste. À la limite, plus un groupe est puissant, plus il met en avant des politiques qui servent ses intérêts. Ça pourrait vouloir dire que les politiques sont des marionnettes aux mains de puissances financières, etc. Et pourtant, si on la sort du contexte, on peut l'interpréter comme ça. Mais pour moi, elle est très éclairante, quoi, puisqu'on voit bien. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le financement des partis politiques, les comptes offshore, etc. C'est souvent des multinationales qui financent. Et Chomsky est un des premiers à révéler ça. Il l'explique très bien dans le film Les illusions nécessaires, la manière dont la propagande est fabriquée. C'est là-dessus que Chomsky est lumineux. C'est là-dessus qu'il est, comment dire, il trouve avec des mots simples des choses, oui, qui pour une génération comme la mienne, c'est le premier à avoir dit tout ça. C'est pour ça que c'est un des penseurs les plus influents du monde.
Et il reconnaît aussi qu'il arrive parfois que des organisations militantes de base aient suffisamment de pouvoir pour faire reculer les puissants, comme il donne l'exemple de 1998 avec l'accord multilatéral sur les investissements. Oui. Toute la concentration de pouvoir disponible sur Terre était pour cet accord. Or, les militants, les associations ont réussi à faire en sorte que cet accord ne passe jamais, Rudi Reichstadt. Donc c'est pas celui qui vous fait le plus tort à vous dans votre travail sur l'Observatoire du complotisme.
Non, nous ce qu'on voit, c'est une forme d'ambivalence, parce que vous voyez, sa condamnation des théories du complot sur le septembre 2008, elle passe relativement inaperçue. Elle n'écorne pas son image dans une partie de la complosphère. Par exemple, on a, qui est programmé en 2010 au Théâtre de la Main d'Or, chez Dieudonné, donc, le film Chomsky et compagnie, le film Daniel Mermet. Et donc, il est vu quand même par des gens qui sont complotistes et qui, à leur grande âme, ne sont pas suivis par Chomsky sur la question du 11 septembre. Et en 2010, il accorde une interview à Presse TV, qui est un média d'État iranien, donc de la République islamique d'Iran, et dans lequel il dit, mais vous savez, on n'a pas en fait de preuves de l'implication d'Al-Qaïda dans les attentats du 11 septembre, et les Américains n'en avaient pas. Et lorsqu'on l'interroge là-dessus, un an plus tard, il dit, ah oui, mais certes, il y a bien une image, une vidéo où Ben Laden revendique tout ça, mais même s'il est beaucoup question des aveux de Ben Laden, c'est plutôt du genre de mes aveux lorsque j'ai gagné le marathon de Boston, et dit-il, se vanter de ce qu'il considérait comme une réussite géniale. Donc là, on a l'impression qu'on est davantage dans l'expression d'une opinion chez Chomsky, où il fait le tri, quoi, il décide ce qu'il retient comme un fait ou pas, plutôt que dans une recherche, pour le coup, serrée des faits.
Et pourtant, dans son livre de recueil d'articles et d'entretiens qu'il a donné juste après le 11 septembre, à nombreuses reprises, il cite Ben Laden en ne mettant jamais en cause sa responsabilité dans les attentats, mais en disant qu'il connaissait rien au monde autour de lui. Ce qui l'intéressait, c'était de punir l'Amérique et non les valeurs occidentales en particulier. Denis Robert, peut-être pour conclure, on arrive déjà à la fin de cet entretien. On peut pas non plus prendre à défaut Noam Chomsky de complotisme sur la question de la pandémie de coronavirus, sur les questions de santé publique en général, la question des vaccins, et puis la question du climat. Et on n'en a pas du tout parlé dans cette série, mais Noam Chomsky, aujourd'hui, quand on lit ses textes sur de nombreux sites, concerne particulièrement les questions d'environnement.
Oui, il est très sensible à tout ça. Là aussi, malgré son âge, il est très au fait de tout ce qui s'écrit et de tout ce qui se dit là-dessus. Et il continue à avoir Moi, il y a une chose, je ne sais pas si dans vos émissions vous l'avez relevé, mais il y a une chose, je pense que son travail sur la grammaire et sur la linguistique, ça l'a beau.
Oui,
ça,
c'était ça le deuxième donné... épisode.
Oui, je sais, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'il a su être aussi lucide et aussi lumineux par la suite, c'est parce que son esprit était formé à ça, quoi.
Merci beaucoup.
Il a pu laisser de côté tout le jargon universitaire pour aller sur des terrains essentiels et pour décrypter le monde comme il l'a fait.
Merci à vous deux d'avoir été avec nous pour cette dernière émission de cette série consacrée à Noam Chomsky, Rudi Reichstadt, directeur de l'Observatoire du conspirationnisme, et vous, Denis Robert, fondateur du nouveau site de presse en ligne Blast, avoir raison avec Noam Chomsky. Cette émission a été réalisée toute la semaine par June Loper. À la technique aujourd'hui, c'était Dimitri Paz. Tous les épisodes de cette semaine pour une vision complète mais non exhaustive exhaustive du personnage dans ses fulgurances et dans ses errements sont en ligne sur le site de France Culture. La semaine prochaine, ce sera Avoir raison avec Simone Veil, la philosophe Simone Veil, série proposée par Aïda Ndiaye. Merci à tous pour votre écoute et très bon été à l'écoute de France Culture.